on reviendra aussi sur la série un petit peu en fin d'émission. Lille s'est imposé 1-0 à domicile face à Sochaux grâce à un but de Pierre-Alain Frolion. On s'est également imposé à domicile 1-0 sur le même score face au FC Lorient. Montpellier s'est imposé 1-0 face à Lens. Nancy a fait match nul 0-0 face à Toulouse. Valenciennes-Boulogne-sur-Mer, excusez-moi, un partout. Et Bordeaux a gagné 1-0 contre Grenoble. Vous venez de le vivre avec nous demain à 17h Auxerre, Nice et Rennes Saint-Etienne. Et le match qui clôturera cette cinquième journée sera Monaco-PSG à 21h au stade Louis II. Donc, messieurs, revenons. On va passer environ une petite heure ensemble jusqu'à minuit pour décortiquer cette cinquième journée en votre compagnie. Tout d'abord, on va commencer par le. Il y a. Tout simplement le match de. On va commencer par le match de Marseille.
Oh, attends, il y a plus important. Le premier 0-0 entre Nancy et Toulouse. Premier 0-0 de Ligue 1 cette saison. C'était important de le souligner.
Et tu es sûr qu'il n'y a pas eu un 0-0 la semaine
Si, il y en
dernière?
a eu un au Serre-Boulogne.
Oh mince! Je l'avais loupé! Oh tant pis. J'y ai cru plus longtemps que les autres.
Effectivement. Donc, avant de parler de ce 0-0 Nancy-Toulouse, on va parler donc de l'OM Marseille qui est allé s'imposer sur le terrain du Mans. Ce soir, ça n'a pas été un match extrêmement facile déjà à regarder pour Roméo. Et surtout, ça n'a pas été un match facile pour les Marseillais qui ont dû quand même attendre un but de Brandao. Donc, c'est pour vous dire, pour gagner et mettre une réelle option sur la victoire. Roméo, est-ce que tu peux nous faire ton compte-rendu à toi de ce match-là, ta première impression?
Bah, première impression, bah, victoire 2 buts à 1 grâce à un but de Niang. Et donc, d'ailleurs, Le Mans a égalisé grâce à un beau but. À voir, belle bicyclette de Maïga, il me semble, c'est ça, c'est le Malien. Comment?
Modibo.
Voilà, exactement. Sinon, au niveau du match, bah, Marseille a maîtrisé au niveau de la possession, surtout en première mi-temps, c'était vraiment très beau à voir. Et donc, au niveau de la possession, à la mi-temps, il me semble qu'il y avait 65-35 dans ces eaux-là, 7 tirs pour Marseille à 2, donc vraiment grosse domination. Et en deuxième mi-temps, ça a été beaucoup, beaucoup plus équilibré. Le Mans a sorti la tête de l'eau, en quelque sorte. Ils se sont montrés. Mais l'élément déclencheur, ça a été cette frappe de Le Tadec sur le poteau après un coup franc. Mais donc Le Mans, beaucoup plus percutant, beaucoup plus dangereux en deuxième mi-temps. Ça a porté ses fruits, ils ont égalisé. Mais donc après, Marseille a répondu présent grâce à un but de Brandao. Mais au-delà de ça, je voudrais signaler que l'info principale, c'est que Deschamps a changé de système. Il a changé de système dans ce match pour mettre en place un 4-4-2 ou un 4-3-1-2 à la Chelsea avec un milieu défensif de relayeurs Chérou, Abriel, Lucho en 10 et deux attaquants qui sont Niang et Brandao. Et bizarrement, c'est une idée que j'avais soumise le samedi 22 août. Vous pouvez essayer de prendre la rediffusion. Prenez la rediffusion du débat after du samedi 22 août. J'avais parlé de cette idée. J'en ai rêvé. Didier Deschamps l'a fait. Voilà. Et donc non, je n'ai pas le petit morceau. On essaiera peut-être de vous le passer tout à l'heure. Donc pour vous prouver ma bonne foi, hein, voilà. Donc, mis à part ça, au niveau collectif, globalement, Lucho, peut-être un des moins bons. Bon, on va pas lui jeter la pierre quand même. Il revient de blessure. Ça fait 5 mois qu'il a pas fait de match en compétition. Il faut lui laisser un peu de temps pour prendre le rythme. Mais mis à part ça, malgré son manque de rythme, on sent que quand même qu'il y a une certaine classe chez ce joueur, et peut-être c'est une classe qui manquait à l'Olympique de Marseille cette année.
Oui, donc justement pour revenir sur Lucho, qui a été un des principaux sujets des réactions après de Didier Deschamps, qui sont suivi le match. Lucho González, qui a été bien protégé par son entraîneur, vous allez me dire c'est normal, puisque Didier Deschamps l'a envoyé donc pour la première fois en tant que titulaire en Ligue 1. Et Didier Deschamps l'a quand même trouvé correct. Il l'a expliqué qu'il l'avait fait jouer une petite heure juste pour le conserver pour le match contre Milan, donc aucun doute normalement sur sa présence sur le terrain au Vélodrome mardi soir. Il est sûr et certain, Didier Deschamps, que son joueur va progresser. Il a un peu du même avis que toi, Roméo. Deschamps a vu de belles qualités, un beau
volume. Les grands esprits se rencontrent.
Voilà, exactement. Dire ça ou pas, mais bon. Il a montré donc de grosses qualités au niveau du volume de jeu et il a fait aussi beaucoup d'efforts sans ballon, donc ça reste un bon point, un point positif pour Didier Deschamps ce soir, Lucho González. Ce qui n'est pas positif par contre, c'est la manière d'avoir gagné ce soir. Je cite Didier Deschamps, cette victoire est la chose la plus importante. Apparemment, l'OM n'avait pas l'habitude de gagner sur ce terrain. C'est fait, même si...
C'est la première fois en Ligue 1.
Même si... D'accord, c'est la première fois que vous allez gagner au Mans. Donc, ceci explique cela et les déclarations de Deschamps qui finissait en disant c'est fait, même si mes joueurs se sont compliqués la vie. Et effectivement, c'est un petit peu la pensée qui ressort de ton analyse. Les joueurs auraient pu quand même s'imposer plus facilement, pas avoir à remettre ce deuxième but, pas avoir à compter surtout sur Brandao pour gagner, parce que ça c'était un petit peu risqué. Mais effectivement, le système de jeu est aussi un des gros enseignements de ce soir. C'est d'ailleurs sur quoi finit Didier Deschamps ce soir en disant ce nouveau système en 4-4-2, on va voir si on le garde mardi, ce sera la C1. Alors on ne sait pas encore ce qu'on va aligner. Pour moi, je pense, Roméo, que ça serait peut-être la bonne solution, parce que moi qui connais quand même un petit peu la situation du Milan, ce n'est pas du tout, mais alors du tout risqué de jouer en 4-4-2 comme ça pourrait l'être pour Bordeaux face à la Juve. On en parlait tout à l'heure avec Edouard. Et moi, je pense, je sais pas ce que si tu es du même avis que moi, mais il faut conserver ce système-là face à Milan.
Bah, par rapport à ce schéma de jeu, j'aime beaucoup le 4-3-3, mais il faut être réaliste. Cette saison, Marseille n'a pas les joueurs offensifs. Je me répète un peu, mais Marseille n'a pas les joueurs offensifs pour évoluer dans ce système, parce que on n'a pas de véritable avant-centre. Excusez-moi, j'étais en train de fermer le Velux. Il y a un feu d'artifice chez moi, je sais pas ce qu'on fait. Voilà. Donc.
Bah, on fête le 12 septembre, tu connais pas?
Bah, non.
Tout simplement.
Donc voilà, le 12 septembre. Donc, vous m'entendez mieux là, j'espère.
Parfaitement.
Voilà. Donc je vous l'ai dit, on n'a pas de véritable avant-centre capable d'évoluer dans cette position en pointe. Brandao, il est un peu limité. Alors si tu le mets tout seul en pointe, c'est surtout dans ce 4-3-3, ça va pas marcher. Et en plus, on n'a pas de penchant à droite de Mamadou Niang. On n'a pas son penchant à droite, et ça c'est une des c'est un des principaux facteurs qui me fait penser qu'il faut pas garder ce schéma de jeu. Et en 4-4-2, le 4-4-2, je pense que c'est la bonne solution, parce que Brandao, même si bon, il fait ce qu'il peut, hein, il est brave, mais si on veut tirer un maximum de ses pierres capacités, faut le faire jouer avec deux attaquants, et dans ce système avec Niang à côté de lui en soutien qui tourne autour, c'est là où il peut le mieux marcher. Après, est-ce que c'est encore une fois l'attaquant qui permettrait d'exploiter au mieux le potentiel offensif de Marseille? Je sais pas.
Tu n'en es pas sûr, en tout cas, de ça. Julien, justement, toi qui as un œil un petit peu extérieur à ça, un peu plus impartial, Si tu avais à donner un duo d'attaquants à Marseille, plus qu'un véritable schéma de jeu, si tu avais vraiment deux attaquants à sortir du lot, en comptant que Koné peut être justement comptabilisé comme attaquant, si tu as à choisir entre Morientes, Niang, Brandao et justement Bakary Koné, puisque Ben Arfa est plus considéré comme un milieu offensif, tu choisirais quoi, toi? Je vous rappelle que Koné est blessé pour 2-3 semaines, c'est ça, Roméo?
Oui, connaît blessé, même plus un mois et demi, il me
Ah
semble.
d'accord, excusez-moi, un mois et demi. Oui, donc Julien, je sais pas ton avis là-dessus.
Ouais, donc déjà, il y a le cas Brandao, comme on dit, puisque il est toujours pour l'instant titulaire et il est toujours de plus en plus décrié. Donc c'est ça qui, ça paraît assez étonnant parce que il est de plus en plus décrié par les supporters, mais Deschamps a décidé de lui garder sa la confiance, alors que encore aujourd'hui, on l'a vu, il a gâché des grosses grosses occasions. Il y a certains moments, il s'est retrouvé seul face au but. Alors il a toujours cette présence physique, on dit toujours que il a cette présence physique qui est très importante pour remettre des ballons, mais néanmoins je pense que il faudrait savoir remettre de la confiance en Morientes, et je pense qu'un Morientes en confiance est capable de revenir à un niveau très important, et en tout cas un meilleur niveau que Brandao, qui, tout physique qu'il est, n'a pas la technique nécessaire à une équipe qui veut prétendre au titre en Ligue 1 et à pourquoi pas avancer en Europe.
Ouais,
Donc,
c'est ça. Oui, vas-y, Roméo.
t'as tout dit. Non, franchement, t'as tout dit. On a beau vanter ses
Demande-le en
qualités
mariage, hein, s'il est.
pourquoi
En
pas?
pax, en pax.
Non, mais
Mais
effectivement, on vantait justement les mérites tout à l'heure de Chama, qui est un attaquant imposant physiquement, puisqu'il est très bon dans les duels, on le sait, qui marque beaucoup de la tête, et qui sait aussi jouer justement des
devant le
pieds,
but.
et qui a une très bonne technique, puisque c'est un des joueurs qui possède, pour moi, une des meilleures capacités en un contre un de Bordeaux avec Yoann Gourcuff, et ce que n'a pas Brandao, justement, et pour un club comme Marseille, qui est du standing de Bordeaux au moins. Tu ne peux pas te permettre d'avoir un joueur comme Brandao qui ne fait que peser sur la défense adverse, mais qui n'est pas vraiment utile dans la construction et dans la fluidité du jeu, quoi. Parce que même ses remises sont parfois pas forcément très lucides, c'est pas forcément très bien pensé. Et pourtant, ne croyez pas que je sois un des qui m'acharne sur Brandao, parce que justement, ah non, mais en plus c'est vrai, je suis pas comme Marvolo qui ne peut pas le voir, ou comme Roméo qui c'est encore pire. J'ai pas forcément une grosse antipathie pour Brandao,
Il te plaît, c'est ça.
mais voilà,
Physiquement, il te
avec
plaît, c'est ça, en fait.
sa petite crinière et ses cheveux attachés m'ont séduit, et il a su quand même me toucher, mais surtout ses frappes écrasées à 5 mètres du poteau qui ont su me rendre fou de lui. Mais ça n'empêche que c'est vrai que Brandao n'a pas le niveau d'être un titulaire à Marseille à côté d'un mec qui a le niveau de Niang. Oui, Roméo?
Oui, mais tu parlais de Chamakh, mais Chamakh, le truc, c'est qu'il est très bon dos au but, il a de très bonnes qualités de remiseur, mais il est aussi capable de jouer dans un rôle d'attaquant seul en pointe. Il peut jouer seul en pointe dans un 4-5, dans un 4-2-3-1, dans un 4-3-3. C'est sa dualité du poste d'avançant qui est un de ses points forts, alors que
Son
Brandao.
dualisme, on dit.
Oui, enfin, c'est mon cours de français qui est sorti. Donc, et c'est ce que n'a pas Brandao. Brandao, déjà, il ne peut jouer qu'avec un second attaquant à côté de lui. Et il aurait plutôt ce rôle de remiseur. Mais justement, on a déjà un joueur qui joue en soutien, Niang, qui est pas un excellent finisseur. Il faudrait plutôt un finisseur comme Morientes aux côtés de Niang. Et dans ce 4-4-2, 4-3-1-2, j'ai envie de voir Morientes à côté de lui.
Et on l'a pas dit, mais bien sûr, t'en parlais il y a quelques instants, Niang est évident, et enfin je pense que maintenant d'ailleurs on se pose même plus la question au niveau des supporters marseillais et même de Didier Deschamps. Au niveau offensif, Niang c'est clairement totalement imposé, et maintenant Je pense que la plupart des Marseillais imaginent même plus une compo de titulaire sans Niang titulaire d'entrée pour commencer, et parce que c'est devenu vraiment le boss de l'attaque marseillaise, quoi.
Ok. Donc on a fait le tour sur cette attaque marseillaise. Par rapport aux déclarations de Deschamps, on peut pas vraiment tirer de conclusion. Là, je vous les ai énoncées tout à l'heure. Vous pensez quand même, pour finir sur cette attaque marseillaise, que le duo qui va être aligné cette semaine contre Milan va être ce duo-là, Roméo? Tu penses que, en comptant de toute façon que Koné est définitivement out, tu penses que ça va être le trident Lucho, Brandao et Niang, en laissant donc Morientes et Ben Arfa, excusez-moi, sur le banc?
Je sais pas. Je vois bien Deschamps nous sortir un petit truc de son chapeau et mettre Morientes titulaire en Ligue des Champions. Et on sait qu'il a été pris notamment pour son expérience. Et pourquoi pas dans ce genre de match mettre Morientes en titulaire. C'est possible, mais à mon avis, il devrait garder la même ossature avec peut-être un changement, mais pas plus. Moi, pour moi, le seul doute qui subsiste, c'est au niveau de Brandao.
Ok, très bien. Donc maintenant, on va passer au milieu de terrain marseillais. On a parlé de Lucho. On va aborder 2 minutes le cas Abriel, qui est pour moi un super, mais vraiment super joueur, qui s'adapte partout. Tu peux le mettre milieu de terrain numéro 6, tu peux le mettre relanceur numéro 8, tu peux le mettre un petit peu plus sur le côté comme aujourd'hui dans un 4-4-2. Enfin, 4-4-2 entre guillemets, 4-3-3 si tu préfères. C'est vraiment un super joueur et je plussois quand même Didier Deschamps quand il le fait démarrer titulaire et qui ne met pas un mec comme Édouard Cissé, même si Édouard Cissé fait le boulot. Je sais pas ce que t'en penses toi Roméo, mais moi je suis fan vraiment du joueur.
Ah moi aussi, mais j'aime aussi Édouard Cissé, mais Édouard Cissé, je veux dire, je me
C'est plus
satisfais de ses
sobre.
devenus, parce que Édouard Cissé sera un très bon remplaçant à Abia, mais dans ce 4-4-2, je préfère voir Abriel, parce que Abriel est plus technique, et au niveau de la récupération, on a déjà un mec super baraque qui est Abia, et je pense qu'il peut l'assurer quasiment tout seul, avec peut-être Chérou qui redescend de temps en temps, qui...
Techniquement et au niveau de la lucidité, ça change de Charles Caboret, hein. Oh.
Ah, c'est le jour et la nuit.
Ah oui, effectivement, oui. Caboret qui va plus avoir énormément de temps au milieu de terrain, à mon avis, parce que vu que c'est bien bien renforcé. Alors si vous avez un secteur de jeu où vous n'avez pas à vous inquiéter, c'est bien là. À mon avis, je pense, c'est bien là. À Marseille, vous avez un bon ossature, un bon
Équipe,
effectif,
oui,
avec
après.
Valbuena qui peut toujours jouer un petit peu sur un côté, même s'il aime mieux jouer dans l'axe derrière des attaquants. T'as toujours ce gars-là qui peut remplacer. Donc je pense qu'au milieu de terrain, vous êtes armé. Chérou a encore fait une belle frappe aujourd'hui, une frappe sur le poteau, il me semble. Donc c'est du tout bon pour Marseille au milieu. Passons maintenant à la défense pour finir cette petite analyse un petit peu plus précise de l'OM ce soir, qui a gagné 2-1 au stade Léon Bollée, je vous le rappelle. Diawara, Hilton. Qu'est-ce qu'on en sort? Marvolo, j'allais t'appeler. Roméo, excuse-moi. Roméo, t'en sors quoi? Une prestation correcte? Je sais pas trop quoi dire sur le but. Enfin bon. Je sais pas trop qui mettre. Enfin, qui sera le fautif sur ce but-là. Si tu veux parler en même temps de Mandanda dans la performance défensive, libre à toi.
Sur ce but, c'est la défense centrale qui se dégage pas bien. Là, c'est Le Mans n'a pas le droit de jouer comme ça avec la balle. Dans cette zone, pour moi c'est clair. Après, la défense centrale, mise à part ça, c'est un match encore quasiment irréprochable. Je veux dire que là, il y a c'est encore c'est bon, c'est le jour et la nuit entre la défense centrale de la dernière. Ça change d'Hilton et de Zubar. Ça change énormément. Et voilà, c'est vraiment du tout bon. Diawara, très costaud, impérial dans les duels, également, et voilà. j'ai rien à dire sur la défense pour l'instant. Faudra voir au niveau européen hein, ce que ça vaut, mais en Ligue 1 pour l'instant ça suffit largement, mais largement.
Ok, alors Bonnard Taillot comme d'habitude, assez bon, correct, sans non plus être toutefois exceptionnel. Je pense que pour Marseille, on a fait le tour. Un petit mot maintenant, j'aimerais bien parler du Mans. C'est dommage que sur cette radio, on n'ait pas vraiment de spécialiste du Mans, même si nous, on connaît tous les clubs, vous le savez très bien, et qu'on peut vous en parler des heures. Mais je voudrais quand même émettre des petites réserves quant à la capacité du Mans cette saison à faire une bonne saison, excusez-moi, je répète le mot saison, donc à faire une grosse performance cette année, parce que on savait que les autres années ils étaient capables de recruter ou de faire sortir de très bons joueurs, et là j'ai regardé plusieurs fois leur match, j'ai vu leur match, leur rencontre face à Nancy, je l'ai vu ce soir face à Marseille, et je trouve pas une équipe avec des joueurs vraiment bons qui sont des prometteurs. Goulon, c'est limite. Lama, là, Roland Lama sur le côté, c'est vraiment limite. Déjà, quand on a un prénom comme ça, je me demande comment c'est possible. Ses parents ne devaient pas l'aimer. Ils ont dit, lui, il s'appellera Roland. Tiens, voilà. Loriot. Si, le Talek, on voit qu'il ouais. a un petit peu du ballon, mais il est un peu perdu. Quoi. Roméo, justement, tu avais une petite... petite anecdote par rapport à ça, enfin une petite anecdote, un petit commentaire, parce que tu pensais qu'un joueur au Mans qui est parti en cette fin de mercato à Monaco leur manque désormais atrocement.
Ah oui, ça se sent dans le jeu maintenant. Je pense que là, en vendant Coutador à Monaco, ils ont scellé leur avenir en Ligue 1.
Ah oui, à ce point-là, tu penses?
Ah oui, non, mais c'est vraiment, on sent l'importance, on mesure vraiment l'importance qu'avait Coutador dans le milieu du Mans, et c'est une excellente truc pour Monaco. En
plus, le gardien n'est pas une valeur sûre, enfin, je ne l'ai pas vu être exceptionnel. Ça change, enfin, même si Pelé sur les dernières saisons n'était pas exceptionnel non plus, mais ça reste un gardien quand même. Et,
c'est Obono, le gardien du Mans, il me semble.
Voilà, oui, mais. Enfin, ça change aussi de Pelé, qui était capable quand même de sortir de gros matchs. Cerdan, Louvion, c'est vrai que ça fait peur, quoi. Corchia sur le côté, c'est un découpeur, lui, totalement.
D'ailleurs, quand j'ai vu, j'ai cru qu'il était plus jeune que moi. Comme...
Ah bon?
Ah oui, non, il fait vraiment jeune.
C'est vrai que oui, il a une tête un petit peu de gamin.
Il n'a que 18 ans.
Oui, effectivement. Quand je vois justement sur le banc, alors je vois Elstadt qui est sur le banc qui n'est pas rentré. Bon, vous allez me dire Maïga a marqué, donc ça justifie un petit peu son choix. Je vois un mec comme. Je vois Badara Séné, je vois des mecs comme Dossévi, Bourse, Landel. Je vois vraiment pas ce que peut faire cette année Le Mans, et j'émets aussi peut-être aussi des réserves sur leur capacité à se maintenir en Ligue 1 cette saison, parce que. Quand on voit certaines équipes qui sont derrière elles, comme Saint-Etienne ou Lille, on sait très bien que ces équipes-là auront la capacité de réagir. Même si Saint-Etienne, on les a souvent critiqués, ils ont quand même quelques valeurs. Auxerre, ils ont aussi quelques joueurs qui pourraient les permettre de s'en sortir. Bon, ce n'est pas forcément le cas de Grenoble ou encore de Valenciennes. Mais, ou par exemple Nice aussi, qui ont quelques joueurs qui pourraient les aider, comme Bamogo, surtout Rémy. Vous avez quand même certains joueurs qui peuvent faire que l'équipe peut se maintenir. Au Mans, on voit vraiment pas de taulier. Si, j'ai dit le Talek, mais le Talek est encore beaucoup trop jeune pour vraiment être un taulier. À part s'il fait une très grosse saison, je vois pas vraiment ce que peut espérer Le Mans de cet effectif-là. Voilà, je suis un petit peu déçu parce que j'aimais bien Le Mans et vanter leur mérite chaque saison au niveau du recrutement surtout. Mais là, on ne pourra pas trop le faire. Julien, justement, tu voulais finir sur un petit truc une petite anecdote par rapport à cette opposition là, Le Mans-Marseille. Donc je te laisse la main et on écoutera après le morceau tant attendu de Roméo de la dernière émission où il voulait ce schéma tactique, où il suppliait Didier Deschamps de faire ce schéma tactique. Julien.
Oui, alors on va faire un peu de culture générale, puisque tu disais que le stade c'était Léon Bollé. Est-ce que vous savez qui était Léon Bollé?
Alors... Un morceau.
Oui.
Mais alors, c'est un nom particulièrement ridicule.
Parce que on va quand même dire que son nom ensuite va être perdu, puisqu'on sait que Le Mans normalement devrait avoir un nouveau stade qui sera peut-être le premier stade en naming en France, puisque ça devrait être la MMA Arena.
Ah oui, d'accord, c'est ça les trucs en... Oui, le naming, je savais plus. Oui, t'as raison, oui.
Et Léon Bollée était donc un constructeur automobile qui a inventé ce qu'on appelle la voiturette. C'est la voiture sans permis. Voilà. Donc, on sait qu'ils
Wow.
avancent pas très vite. Espérons que Le Mans avance un peu plus vite cette année quand même.
Oh, très bien. Bon, joli trait d'humour aussi pour finir. Ça change des blagues
Était
pourries
vraiment beau.
de Roméo. Ça fait du bien avoir un petit peu de culture ici. Roméo, ça t'apprendra au moins quelque chose aujourd'hui.
Dormira moins
Voilà.
bête.
Je sais qu'en une semaine de cours, t'as toujours rien appris. Donc au moins ce soir, tu te coucheras moins con, évidemment. Un dernier truc donc sur ce match, la bande, on vous l'a dit, on vous l'avait promis, Roméo le voulait. Ben messieurs, c'est quand vous voulez pour entendre Roméo qui vante les mérites du système de ce soir marseillais. Didier Deschamps l'a écouté.
Mais pourquoi pas dans un 4-4-2 à losange en milieu axial droit, un peu comme Sagnier la dernière, pourquoi pas dans ce poste-là avec Lucho devant et Cherou et Mbia derrière ou Cissé, pourquoi pas dans un 4-4-2 à losange, mais dans un 4-3-3 à dans cette configuration, je le préfère en relayeur droit. Ça n'empêche pas de prendre le couloir droit quand l'ailier droit, à savoir c'était Ben Arfa, soit quand l'ailier droit repique dans l'axe, ça n'empêche pas de prendre ce couloir justement.
Je fais pas souvent des compliments, mais pour le coup, le 4-4-2, je l'avais absolument pas vu venir, et c'est loin d'être con ce qu'il vient de dire, Roméo. Non, mais c'est vrai, franchement, je l'avais absolument pas envisagé cette possibilité-là, et c'est vrai que passer avec Mbia et côté gauche, enfin côté gauche, axe gauche plutôt, axe droit, un peu comme ce que fait Chelsea avec.
Vous m'appellerez maintenant le visionnaire. Voilà. À partir de maintenant, ça sera mon
On n'aurait pas
nouveau.
dû passer cette bande parce que alors là, il va nous la ressasser à chaque émission maintenant, Roméo. On va.
Maintenant, ça sera ça.
On vous a montré, il ne vous a pas menti, il avait fait ça et effectivement, ça marche plutôt bien pour l'instant. C'est bien, Roméo. On te félicite pour ce moment pour toi de gloire. Ça n'arrive pas si souvent.
Oh.
Voilà, donc maintenant passons au match lillois. Au match lillois, Lille qui recevait les joueurs de Sochaux, les joueurs de Francis Gillot. Alors, j'avais la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, pardon, puisque la semaine dernière c'était la trêve internationale, vanté énormément les mérites des Sochaliens quant à leur capacité à développer un jeu vraiment hallucinant en Ligue 1, surtout pour une équipe du genre. Mais alors, ce soir, ils sont retombés dans leur travers comme il y avait eu à Toulouse où ils avaient été complètement à côté. Et Sochaux n'a vraiment pas livré une grosse prestation, mais Julien nous expliquera ça mieux. Julien, qu'en as-tu pensé, toi?
Oui, alors c'était donc Lille qui a fait, hein, comme on l'a dit, un début de saison très très poussif, voire même on peut le dire mauvais. Devait se reprendre ce soir absolument face à un Sochaux qui, contrairement à Lille, n'a pas trop déçu en ce début de match, en ce début de saison, pardon. Et donc ça a été une opposition intéressante et Francis Gillot avait décidé de faire un choix assez osé puisqu'il avait tenter une composition assez offensive avec quatre joueurs à vocation plutôt très offensive avec Zverkos, Davies, le jeune Boudébouz et le jeune Maurice Bellet. Donc c'est vrai que Sochaux avait de l'ambition et avait l'ambition de prendre au moins un point, voire plus à Lille. Et côté Lillois, on avait aussi décidé de mettre trois attaquants, trois purs attaquants avec Eden Hazard, Tulio de Melo et Gervinho. Et finalement, c'est Lille qui logiquement l'a emporté 1-0 puisque Lille a tenu le ballon dans ce match avec un peu plus de 55% de possession. Lille a dominé au niveau des tirs. Lille a totalement dominé le milieu de terrain avec notamment Florent Balmont qui a été vraiment énorme. On a 81 ballons touchés pour Balmont. Donc c'est vrai que Balmont avec Mavouba, a totalement verrouillé le milieu, et en face, le pauvre Stéphane Dalmat a pas vraiment existé, ni le jeune Marvin Martin. Donc c'est vrai que logiquement, Lille s'est imposé, et alors que pendant très longtemps, on a cru que Lille allait dominer stérilement ce match, l'éclair est venu de celui qu'on n'attendait plus, puisque c'est paf, comme on dit, Pierre-Alain Fraud qui a marqué et qui a fait la différence. Donc c'est vrai que ça paraît assez incroyable. Donc, Lille finalement s'en sort plutôt bien si on regarde, puisqu'ils ont dominé le match. Mais il y a le alors on va signaler aussi un autre joueur, c'est le jeune Peter Aubameyang qui a fait qui a impressionné qui a Pierre Aubameyang pardon qui
Oui,
a
Pierre-Emerick.
impressionné tout le monde dans ce match, puisqu'il est rentré, il a été vraiment décisif. Et ce jeune joueur est peut-être une des trouvailles de l'année. Hein. Donc je sais pas si Roméo,
J'avais.
t'as un mot à dire sur lui.
Oui, Roméo.
Bah, il contre Marseille avec Lille, il avait été pas mal, mais il a joué à quel poste ce soir?
Il était en attaque, hein, il était en attaque, il est rentré en cours de match, et il a été très tranchant. Et je crois que les supporters lillois étaient vraiment impressionnés par. Et surtout au niveau technique, c'est un joueur qui a apporté techniquement, il a été assez impressionnant. Et donc il a remplacé le jeune Eden Hazard, qui on sait aussi est un des grands espoirs du Lille Olympique. Donc c'est vrai que Aubameyang, parce qu'il y avait aussi, donc il était en attaque plutôt côté gauche, puisque c'était Tulio Demelo qui était en attaque en pointe, et qui apparemment n'a. Il a du mal en ce début de saison, Tulio Demelo, qui est assez un peu un joueur. Là aussi, hein, on dit qu'il a un très fort impact physique. On dit que c'est un peu à un joueur qui est capable de remiser et tout ça. Mais aujourd'hui, il a été vraiment absent. Donc, l'apport de Aubameyang techniquement a énormément joué.
Juste, oui,
Oui,
vas-y, on finit.
excuse-moi Arnaud, mais finalement, on attendait Gervinho pour remplacer Bastos, mais finalement, est-ce que ça sera pas celui qu'on attendait peut-être un petit peu moins? Bah, donc, Aubameyang.
Justement, oui, je voulais revenir là-dessus parce que moi, la semaine dernière, enfin, il y a 2 semaines, pardon, et j'avais dit à la suite du match de Lille contre le PSG perdu 3-0 que je ne comprenais pas la réaction de Rudy Garcia qui tenait absolument à faire jouer Aubameyang plus qu'un Gervinho. Effectivement, là, il conforte son entraîneur dans son idée ce soir par cette entrée-là. Et juste. Je voulais dire que c'est Tulio Demelo est sorti touché au genou droit, celui qui l'avait éloigné des terrains une grosse partie de saison l'an dernier. Et donc on ne sait pas encore pour l'instant combien de temps ça va durer, mais Tulio Demelo est quand même assez, enfin, est maudit au niveau des blessures, lui qui a été si bon au Mans sous les ordres justement de Rudy Garcia. Une petite anecdote aussi, ce qui est assez intéressante, c'est que Pierre-Alain Fraud qui a marqué a de quoi être heureux parce qu'il a provoqué la défaite de son ancien club. Et grâce à ce but-là, le LOSC a signé donc son premier succès de la saison. Je reste quand même sur le fait, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Julien, mais que Lille aurait pu gagner plus largement, quoi. Ils auraient pu.
Tout à fait. Avec un peu plus de réalisme, avec un Tulio et surtout un Gervinho, puisque tu parlais de Gervinho tout à l'heure, Roméo. Gervinho a pas été tranchant ce soir, a pas été capable du dernier geste qui fait la différence. Hein. Même si Richard a aussi longtemps repoussé le but lillois. Et je voudrais juste dire un mot aussi sur la défense lilloise, et notamment sur Adil Rami, qui on sait toutes les péripéties qui lui arrivaient. Et aujourd'hui, il a fait vraiment un match énorme. Il a
Oui.
totalement verrouillé la défense australienne, quasiment à lui tout seul, avec Chedjou à ses côtés. Et donc, c'est vrai que Adil Rami finalement, il s'est très bien remis de toutes ses aventures de l'été et de son transfert avorté. Et aujourd'hui, il a vraiment tenu le match à sa façon. Alors que de l'autre côté, la défense australienne avec Brechet et Perkis a vite perdu le fil. Et l'attaque socialienne. On avait beaucoup parlé de l'attaque socialienne avec l'Américain Davis et puis Zverkos. Zverkos a été transparent ce soir. Donc enfin même sûrement à cause de Rami, mais bon. Donc vraiment un bon match pour Lille, un match je pense référence pour les Lillois. qui vont pouvoir repartir sur de bonnes bases après cette victoire et qui auraient pu gagner plus, mais bon, ils prennent les 3 points, comme on dit, c'est le plus important.
Très bien, bah, je pense qu'on a été très clair sur Lille, merci Julien.
Très grand tour.
On est content quand même pour les Lillois qui, je le rappelle, ne méritaient pas cette zone rouge où ils étaient. Ils ne méritaient d'ailleurs pas de perdre 3-0 contre le PSG il y a 2 semaines. Et là, si Lille pouvait enfin revenir dans la première moitié de tableau, celle qui lui va comme un gant, ça serait bien parce que ça reste une équipe quand même qui produit un beau football avec un entraîneur comme Rudy Garcia qui aime ça. Et puis il faudrait surtout qu'il profite de pouvoir gagner des matchs tant que Landreau n'est pas encore revenu à la compétition, parce qu'après ça va être un peu plus compliqué. Bref, passons maintenant à Montpellier. Montpellier qui s'est imposé ce soir face à Lens. Une victoire héraultaise, donc la troisième cette saison. Troisième de rang, qui permet aux hommes de René Girard de poursuivre leur bon début de saison, voire leur très bon début de saison, puisqu'ils pointent désormais à la troisième place avant les matchs de demain avec 11 points, donc 2 de retard sur le leader qui est Bordeaux. 11 points et une différence de plus 6 qui leur permet d'être devant l'OM qui a également 11 points, mais une différence de plus 4. Donc ils dépassent même Marseille à la différence de but. Fin de série en revanche pour les Lensois qui n'avaient plus connu la défaite depuis le déplacement à Bordeaux lors de la première journée. On en a parlé tout à l'heure avec Edouard. 4-1, on se rappelle, à la première journée. Lens qui avait ensuite fait une belle remontée et qui pointe désormais à la 8ème place avec 7 unités et une différence de but de moins 1. Donc Montpellier qui s'impose logiquement, donc je l'ai dit, dans cette partie assez fermée et un promu qui montre quand même sa solidité au fur et à mesure des matchs. Le quartier de la Mosson, la paillade n'en finit plus d'exulter chaque fois. Montpellier qui est invaincu en Ligue 1 peut compter, je pense, sur quelques hommes forts si j'avais à extraire de ce match-là. Je dirais en premier Alberto Costa, on en a souvent parlé l'an passé en Ligue 2, et c'est un joueur qui est très très intéressant au niveau des coups de pied arrêtés. On nous le vantait comme un des meilleurs tireurs de l'année dernière de L2, et là je suis sûr qu'il pourrait être un des meilleurs aussi de Ligue 1, parce qu'il a vraiment une qualité de frappe de balle sur ses coups francs. En l'occurrence aujourd'hui il met un penalty, Roméo va revenir dessus, mais juste sur ses qualités intrinsèques du joueur, c'est vraiment un très bon élément pour les Montpelliérains, je pense. On l'appelle Tino Costa, il est son surnom, et donc c'est déjà son deuxième but pour le milieu argentin. L'opération maintien, donc René Girard le rappelait à la fin après le match, est définitivement lancée, puisque là avec 11 points en 5 rencontres, Montpellier y va fort, et je pense que en revanche de l'autre côté, les Lensois ont de quoi s'inquiéter pour le maintien, parce que ils ont aucun allant offensif et n'ont pratiquement rien montré sur cette rencontre.
Justement, j'allais t'en parler. Est-ce qu'on nommait la blague le penalty? Donc le penalty sifflé par je sais plus qui est monsieur l'arbitre. Mais c'est une blague, hein. Ça fait 2 penalties douteux pour Montpellier en 2 matchs. Je veux pas dire, mais il y a du Montpellier en sous roche. Enfin, il y a du Loulou Nicolas sous roche. Bon, tu trouves pas? C'est quand même bon.
Je voulais dire un mot, Roméo.
Vas-y. Oui.
Je te reprends la parole parce que je voulais dire un mot sur la défense de Montpellier. Et la défense de Montpellier, qui a ces deux footballeurs venus de l'Est de l'Europe, que sont Nenad Djordjic et surtout la révélation de ce début de saison, qui est Emir Spahić, qui jouait avant au Lokomotiv Moscou et qui avait été recommandé en partie par Djordjic au Montpellierin. Et qui est arrivé, et qui depuis qu'il est arrivé, il a juste manqué un match puisqu'il a eu le temps entre-temps, et dire à quel point il a tout fait, puisqu'il a eu le temps d'avoir la grippe A aussi depuis le début de la saison. Et il marque vraiment par sa présence physique, défensivement. Il a annihilé toutes les attaques lensoises aujourd'hui. On n'a pas vu Eduardo. Parce qu'il a une telle présence physique et pendant tout le match, il est capable de rester concentré et marquer son attaque en tout le match. Je crois que de ce côté-là, il a vraiment imposé sa patte à Montpellier. Et la défense de Errol Tez est verrouillée par cette paire de l'Est. Et je pense qu'il sera dur de marquer des buts à Lens cette saison. Ah, à Montpellier, pardon. Cette saison, tant que ces deux-là seront en forme.
Ok. Ben, c'était bien ce petit commentaire sur une défense qu'on connaît assez peu finalement, mais qui effectivement fait le bonheur des Montpelliérains cette saison. On va passer donc au match suivant, qui est en l'occurrence Nancy-Toulouse. Alors, moi, ça me fait rire parce qu'on a été souvent critiqué ici pour avoir parlé des ambitions offensives nulles de Pablo Correa. Et ben alors là, parce que ce soir, donc, le TFC a été tenu en échec donc face à la AS Nancy-Lorraine à Marcel Picot. Et les Toulousains restent donc dans la seconde moitié de tableau. Mais si on avait quelque chose à retenir ce soir, c'est que les Toulousains, même s'ils ont du mal à repartir dans cette nouvelle saison, ils comptent désormais 5 points en 5 journées, c'est pas non plus catastrophique, mais ont un certain allant, une certaine envie, où on voit qu'ils ne sont pas à leur place là derrière. On voit qu'ils ont du mieux dans le jeu, même si c'est pas encore déterminant, mais je suis persuadé que cette équipe-là ne mérite pas la place actuelle. Je rappelle, le TFC à l'heure actuelle est 13e, et y a beaucoup d'équipes devant elle qui mériteraient d'être derrière. Parlons de Nancy deux secondes, parce que les promesses offensives de l'équipe de Pablo Correa le mois dernier semblent être rangées au placard, hein, parce que quand je vois ce... Comment ?
La campagne d'abonnement est terminée.
Ouais, voilà. Parce que franchement, quand je vois le spectacle pathétique ce soir des Nancéens à domicile, ça me donne envie de gerber. Marvolo avait raison en disant que faut pas croire un mauvais résultat et Pablo Correa allait ressortir la truelle, et ben il avait raison. Et c'est ce qui se passe en ce moment.
Ouais, et on l'a vu, hein, il a proposé une équipe ultra défensive avec notamment un André Luis qui a complètement pété les plombs en fin de match et après un rouge. Cette équipe a verrouillé le match et Toulouse a essayé de qui aussi l'année dernière on avait critiqué aux Toulousains de jouer à 11 derrière et de balancer des ballons pour à 10 derrière de balancer des ballons pour Gignac. Là ils ont proposé quelque chose d'assez intéressant avec Machado, Braten, Tabanou et Gignac, mais ils ont dominé le match au niveau de la possession, au niveau des tirs. On a un tir cadré pendant tout le match, mais donc Toulouse était supérieur ce soir. Mais Nancy a verrouillé, a cassé, a taclé, et donc on a un triste 0-0 au final.
Voilà, donc notre petit coup de gueule sur l'AS Nancy Lorraine est passé. Passons maintenant au match de Lyon. Lyon qui s'est imposé 1-0 face à Lorient, but de Bastos à la 72e minute. Roméo, un petit commentaire sur ce match, cette victoire à Gerland.
Y a une grosse blague. Puel, il a vu qu'il faisait... que sa fin des demi-milieux défensifs, c'est bon, c'est du vu et du revu, donc il va pas la faire 36 000 fois, sa blague. Il a titularisé monsieur Maxime Gondalons, voilà, inconnu au bataillon. Ça vous dit quelque chose?
Non, jamais entendu.
Voilà, tout droit sorti de l'équipe réserve. Il a fait fort, hein. Il a fait fort, hein. Je pense que... Bon, ça m'étonne pas du personnage. Et donc, en plus, il a été très mauvais. Même pas de surprise, même pas de mini révélation, tant pis, il a raté son coup de poker, il a été mauvais. Donc retour au 4-2-3-1 en l'absence de Lisandro Lopez, et ça posait un gros problème parce que Lyon avait le ballon, mais Lyon n'arrivait pas à faire grand chose de son ballon. Ça tournait, ça faisait des passes, mais ça allait pas trop de l'avant. Bon, et finalement c'est l'OL a trouvé la lumière grâce à une tête de Bastos sur un excellent centre de Gogou. Je me demande comment l'OL va faire à l'avenir avec Govou, avec Bastos. Et l'année dernière, et ça me manquait d'ailier. Bah, finalement, cette année, ça va être un problème de riche, j'ai l'impression.
Un petit mot peut-être, Roméo, pour continuer sur justement la belle performance des Lorientais.
Oui. Les Lorientais qui ont fait un beau match, hein, malgré la très nette de possession lyonnaise. Lorient s'est montré, Lorient a tiré. Les Lyonnais ont eu très très chaud parce que, bon, je sais, c'est un raisonnement con, c'est une phrase conne que je vais dire. Mais si Lorient avait marqué à la fin sur cette frappe, je sais plus, mais c'est Lloris qui fait une super parade. Ça n'aurait pas été démérité tellement les Lorientais n'ont pas démérité. Et donc Lyon, je dirais que Lyon ne peut pas s'estimer heureux d'avoir gagné seulement 1-0, mais au vu du match, au niveau de la prestation, c'est ils s'en sortent bien, les Lyonnais.
Ok. Un pronostic, je vais te demander à toi, Pierrot, comme t'as pas énormément parlé depuis le début de l'after, pronostic par rapport aux chances de Lyon mercredi en Ligue des Champions.
Bah, s'ils ont tout leur effectif, je pense qu'ils peuvent très largement gagner. D'ailleurs, c'est ce qu'on a un peu vu sur le problème, c'est si Lyon a un joueur qui manque, j'ai l'impression que c'est très fragile encore. Effectivement, Lyon fait un 13 sur 15, mais pour l'instant, ils sont. Disons que Puel n'est pas encore réhabilité aux yeux du monde, si on peut dire ça comme ça. Mais oui, je pense que Lyon peut se défaire de la Fiorentina. Mais après, je connais pas l'état de forme de la Viola, donc je peux pas trop répondre non plus.
Bah, qui est pas exceptionnel. J'affirme que l'état de forme de la Viola est vraiment pas exceptionnel. Adrien Moutou est dans une crise un peu personnelle par rapport à ses problèmes financiers. Gilardino n'arrive pas à sortir la tête de l'eau quand il a pas un passeur comme Moutou derrière lui. Il faut juste compter sur Stevanov et Tich pour l'équipe de Cesare Prandelli. Et donc, je pense que Lyon a des bonnes chances, oui, moi, de réussir un coup cette semaine. Un dernier petit mot sur Valenciennes-Boulogne. Hein, un partout. Pujol, Morera sont les buteurs.
Ah, tu n'as pas compris la subtilité de la réaction de Pierrot.
Oui, donc Arnaud. Ouais, donc je voulais dire un mot sur ce match-là. Un mot sur Valenciennes notamment, qui a totalement dominé le match, puisqu'on a quand même 24 tirs sur ce match. Et au final, Valenciennes concède le nul à domicile. Valenciennes a été largement supérieure. L'attaque d'Anik Samassa Odell, ce cher Samassa, comme on dit, a été incapable de faire la différence. Et ça fera rire les Marseillais. Et finalement, c'est la différence est venue de Pujol qui est rentré en fin de match. Mais les Boulonnais qui ont vraiment montré pas grand chose ce soir, qui ont rendu une pâle copie, s'en sortent grâce à un but de Morera qui a trompé le très bon, notamment contre Toulouse, gardien de Valenciennes, Ndi Assembé. Et donc Boulogne vole un peu le match et ce point. Mais bon, Boulogne, comme d'habitude, a fait preuve de courage, a été solide quand il a fallu. Ils ont serré les coudes et peut-être qu'ils finiront par sauver comme ça. Mais côté valenciennois, il va falloir régler vraiment les problèmes d'efficacité offensive, parce que ça a été solide, mais si ça marque pas, bah, ça restera pas en Ligue 1, quoi.
Très bien, bah, merci messieurs pour toutes ces analyses de match. On va rappeler les scores avec toi, Roméo, si tu le veux bien, et puis le classement avant les matchs de demain. Et puis on finira sur les scores européens avec Julien, et puis la petite tournée européenne avec des matchs comme le Sevilla qui ne sont pas encore finis.
D'accord. Oui, donc au niveau des autres résultats, donc les résultats complets, Lyon a battu Lorient 1-0, Montpellier s'est imposé face au Ch'ti, Lensois 1-0, Le Mans a perdu à domicile contre l'Olympique de Marseille on vient de le dire, c'est tout chaud, enfin c'est pas tout chaud, Valenciennes et Boulogne, le derby du Schnorr, un partout. Nancy-Toulouse, 0-0, comme c'est étonnant. Lille a battu Sochaux 1-0, paf, un 5 buts de Fro. Et Gouffran a battu le GF38, 1-0.
Et je vais enchaîner sur tous les résultats européens de ce samedi. D'abord en Angleterre, il y avait beaucoup de matchs aujourd'hui. Et c'est donc Manchester United qui s'est imposé 3-1 sur le terrain de Tottenham. Blackburn s'est imposé 3-1 face à Wolverhampton. Liverpool a très largement gagné face à Burnley 4-0. Le gros match de la journée, c'était Manchester City-Arsenal. Et City est en train de réussir son coup de rentrer dans le... Enfin, de créer un nouveau Big Five, puisqu'ils ont battu Arsenal 4-2, un splendide match et une splendide victoire pour Manchester City. Bolton s'est imposé à Portsmouth 3-2. Chelsea a gagné à Stoke City 2-1. Sunderland bat Hull City 4-1. Et enfin, Wigan s'impose face à West Ham 1-0. Ce qui donne au classement Chelsea en tête avec 15 points, alors que City et United, les deux Manchester, ainsi que Tottenham, suivent à 12 points. Donc début de saison parfait pour les Blues de Chelsea avec 5 matchs, 5 victoires. Au fond du classement, Portsmouth nous fait le contraire de Chelsea avec un début de saison à 5 matchs, 5 défaites, et accompagné de Everton et Fulham dans la zone rouge. On va passer au football allemand qui lui aussi jouait beaucoup aujourd'hui. Avec la victoire très importante d'Hambourg face à Stuttgart 3-1 qui leur permet de garder la tête. Wolfsburg, quant à lui, a perdu face au Bayern Leverkusen qui lui aussi est à égalité en tête avec Hambourg. Le Bayern München se relance en gagnant 5-1 face à Dortmund. Hoffenheim s'impose face à Bochum 3-0, hein, Pierrot. Et Francfort gagne 2-0 sur le terrain de Fribourg. Mayence s'impose 2-1 contre Berlin, le Hertha. Et Nuremberg gagne 1-0 contre Mönchengladbach. Donc on l'a dit, Hambourg et Leverkusen en tête avec 10 points. Le Bayern remonte légèrement avec 8 points à égalité avec Hoffenheim qui est donc 5e. Et en fin de tableau, Fribourg, le Hertha et Cologne ferment la marche. Enfin en Espagne, il y avait quelques matchs ce soir. Il y avait le Real qui allait s'imposer 3-0 sur le terrain de l'Espagnol. Le Barça qui a gagné 2-0 avec un gros match d'Ibrahimovic. Et l'Atlético et le Racing qui ont fait un partout. Il y avait ce soir le FC Séville qui recevait Saragosse, et le FC Séville s'impose 4-1 avec des buts de Conco, un doublé de Fabiano et un but de Perotti face à un but de Arzimendi pour Saragosse. Et donc une belle victoire 4-1 pour le Sevilla, et la suite de la journée sera demain. Enfin, eh ben on a fait le tour, je crois. Il reste l'Italie, et il y avait la Juve qui jouait notamment ce soir face à la Lazio, et c'est grâce à un but notamment de David Trezeguet qui a marqué ce soir, et un but de Caceres, la Juve s'impose 2-0. Et enfin, le dernier match Arnaud, c'était Livourne-Milan, et un 0-0, je crois.
Un piètre 0-0, effectivement. Eh ben messieurs, pour moi, il manque un pays, non?
Ah ben oui, on a oublié le Portugal.
Tu veux jouer la Belgique?
Ouais.
Vas-y Pierrot.
Stéphane Powell, c'est avec nous. Powell, c'est avec nous.
Non, il est pas là. Non. Ouais, Rio a battu le National de Madère à 2-0 grâce à Thomas et puis Gomes. Et dans l'autre match, le FC Porto a mis une grosse branlée à l'échange, 4-1. Ouverture du score de Varela, puis deuxième but de Hulk. Ensuite, Rolando et Falcao qui met son quatrième but en 4 matchs. Et Puga a réduit le score pour l'échange. La suite demain.
On attend ça avec impatience.
Pour si Puga va marquer.
Messieurs, il est pour moi de temps de rendre l'antenne minuit sur Génération Soccer. Et une très bonne émission en compagnie de Roméo, Julien, Pierrot. Merci à tous. Et je vous dis à une prochaine fois sur Génération Soccer. Ciao, ciao.
Salut.
Bonne nuit. Bonne nuit.